Annette et le criminel, chapitre 12. La secousse qu'Annette avait ressentie était si violente et avait porté sur tous ses sentiments à la fois d'une manière si cruelle qu'elle fut obligée de garder le lit plusieurs jours, et le médecin déclara qu'elle était réellement malade. Sa mère vint s'établir au chevet de son lit. Alors, sans qu'Annette le sût, Monsieur de Durental ne manqua pas un seul jour à venir au salon causer avec le père Gérard, et il apprit même le piquet pour faire la partie du bonhomme. Argot à prendre le piquet. Le bonhomme Gérard était dans l'enchantement de se servir de la voiture de Monsieur de Durental, d'aller dîner chez lui, de le voir si assidu, et souvent il se disait avec orgueil « C'est mon gendre !» Les refus d'Annette n'entraient pas dans l'esprit de son père. Il la grondait quelquefois, même sérieusement, chose qui, jusque-là, lui avait été impossible. Un soir, il vint auprès du lit d'Annette et lui dit « Ma fille, Monsieur de Durental est dans le salon. Il n'a jamais osé venir te voir. Il ne l'a pas demandé. Il paraît qu'il faut que l'ordre vienne de toi. Pourquoi mon Annette ne le voudrait-elle pas ?» À ces mots, le visage pâle d'Annette devint presque rose. Elle regarda sa mère, et, par un geste rempli de terreur, elle s'écria doucement « Ne cessera-t-il de me tourmenter ?» Monsieur Gérard tomba dans un profond étonnement, et ses deux grands yeux ronds essayèrent de peindre une pensée extraordinaire. « Ma mère, » dit Annette, quand Monsieur Gérard fut sorti, « s'il ne cesse de venir, il m'entraînera dans un affreux précipice. Je ne le hais pas, mais je ne l'aime pas assez encore pour quitter mon Dieu. Oh non, Dieu est immuable, et les hommes changent. Je l'ai déjà trop vu. Que l'on élève une barrière entre nous. Un impie !» Elle retomba sur son lit et ne parla plus après avoir répété une seconde fois « Un impie !» Monsieur Gérard ayant apporté à Argot la réponse d'Annette, Argot cessa d'aller chez Monsieur Gérard. Et alors, le bonhomme vint tous les jours dîner à l'hôtel de Monsieur de Durental, qui, par ce moyen, eut des nouvelles de la jeune fille. Annette, au bout de quelques jours, se trouva mieux, se leva et entra en convalescence. Dès lors, on ne lui parla plus de Monsieur de Durental, ainsi qu'elle l'avait voulu. Et, de son côté, elle garda sur lui le plus profond silence, si bien que l'on eût dit qu'elle ne l'eût jamais vu. Elle fut plus que jamais assidue à l'église, et, pour se donner tout entière à ses méditations religieuses, elle abandonna même l'étude de la musique. Ah, qu'Annette commençait à trouver trop profane. Argot ne manqua jamais un seul jour de se trouver à l'église, et il avait la singulière délicatesse de se placer de manière à n'être pas aperçu d'Annette. Mademoiselle Gérard devint de plus en plus silencieuse. La pâleur de son teint, loin de diminuer, parut augmenter. Enfin, un jour, étant à table, elle dit à voix basse « Je souffre ». Ses parents accueillirent en silence cette parole empreinte de tristesse. Le soir, sa mère fit un effort pour obtenir d'elle que Monsieur de Durental fût reçu. Elle s'y opposa constamment, et son système de sévérité devint tel qu'elle refusa à son père de chanter une romance qui parlait d'amour. Séparée du reste du monde, elle commença à vivre ainsi, par avance, dans le ciel. Ce fut à cette époque qu'en France, les missions commencèrent à faire assez de bruit pour que les missionnaires fussent admis à venir à Paris essayer sur le peuple de la capitale l'effet de leur discours. Une mission fut annoncée à l'église où allait Annette, et l'on doit juger de l'intérêt qu'elle y prit, quand on saura que le curé annonça que ce serait Monsieur de Montiver qui prêcherait. À ce nom, Annette, ne doutant pas que ce ne fût son instituteur et son père en Dieu, témoigna la plus vive joie. Attendu avec impatience, le jour où Monsieur de Montiver devait prêcher arriva bientôt. Ce jour fut une véritable fête pour Annette. Elle se para et fut une des premières arrivées à l'église et placée. Que par l'imagination l'on se représente le lieu de la scène. Une des églises les plus simples et la moins ornée de la capitale, mais ayant par cela même un caractère imposant, en ce qu'elle offrait moins de sujet à la distraction, et que sa pauvreté présentait un contraste avec la grandeur des idées qui s'agitaient sous cette chétive maçonnerie. Cette église ne suffisait point à la foule. Une nuée de Parisiens attirés, soit par la nouveauté du spectacle, soit par l'envie de trouver ridicule le saint orateur, représentait, sauf les sentiments, une de ces assemblées de l'église primitive. Un silence étonnant régnait. Aucune pompe religieuse n'ornait l'autel. Il était couvert même de toiles vertes. Et un crucifix, placé devant la chaire, faisait briller à tous les yeux le sublime spectacle qu'il offre à la pensée d'un chrétien. On attendait avec impatience. Tous les yeux se fixaient sur la sacristie, d'où devait sortir l'orateur sacré. Le jour était faible et les cœurs involontairement recueillis. Tout à coup, la porte s'ouvre et l'on voit paraître un homme de 35 ans, les yeux creux, les lèvres pâles, les joues livides. Sa démarche est grave, son costume imposant de simplicité. À peine a-t-il paru qu'il a imprimé une si haute idée de lui-même que telles paroles qu'il prononce, on s'attend à des paroles extraordinaires. Cet homme est l'abbé de Montivert, abattu par les jeûnes, les prières et les obligations de son divin ministère. Il monte en chaire, regarde l'assemblée, y plonge ses regards à plusieurs reprises et, dédaignant les prières qui commencent ordinairement les sermons, il s'écrie « Mes frères, parmi vous tous, il n'y a pas deux êtres qui soient venus avec un sentiment pareil entendre la parole sainte. Espérons qu'en sortant vous aurez réuni vos cœurs dans une seule pensée et que j'aurai excité chez vous l'amour du ciel. Écoutez-moi donc, non comme un homme, car à ce titre je dois être sujet à l'erreur, mais comme un faible instrument employé par l'Éternel pour servir ses desseins et dont il fait résonner les cordes sous sa main sacrée. Esprit céleste, dont le moindre des rayons qui environnent le trône a rempli l'univers de lumière, daigne donc m'assister et me révéler les secrets de la majesté sainte ou de la bonté touchante. » Ayant dit, il s'arrête pour reprendre avec une émotion visible. « Mes frères, une vierge pure, marchant avec humilité dans le sentier des vertus, soumise à Dieu, craintive, bienfaisante, vivait naguère. Elle était belle, et la Providence s'était plu à prodiguer à celle qui avait les beautés de l'âme et l'amour des choses célestes tout l'aimable cortège des gracieuses perfections du corps. Elle fut aimée d'un homme indifférent en ses opinions et sourd à la voix de Dieu. Cachant avec adresse ses sentiments irréligieux à celle qu'il adorait, il réussit à lui plaire. Elle l'aima. Cheminant à pas lents dans ce chemin si fleuri que l'on parcourt au commencement de la vie, ils s'aimèrent sous les yeux de leurs parents, qui virent avec joie les prémices d'une union si touchante et si belle. Ainsi l'on pensait sur la terre, et cependant dans les cieux, les anges tremblaient à l'aspect d'une âme candide et brillante du feu céleste, souillée par le contact du proscrit d'Éden. On vit ces deux êtres approcher des autels, et le sacerdoce reçut et confirma leur serment. Figurez-vous la joie du banquet, cette seule fête mondaine à laquelle l'Église sourit avec plaisir. Admirez la contenance de cette Vierge pure et les regards mutuels de l'époux et de la fiancée, doux regards qui, malgré leur secrète joie, sont compris de tout le monde. Y a-t-il un visage chagrin? Quel homme ne contemplerait avec volupté le charme qui résulte du tableau de ces deux êtres unis au printemps de leur vie? Toutes les beautés s'y réunissent, Toutes les fleurs de la vie s'épanouissent sous une brise de joie et de plaisir. Il semait la terreur. Il a traîné cet ange d'amour dans l'iniquité. Elle est morte dans l'impénitence finale. Ses belles formes se sont souillées. Elle est devenue noire. En vain, elle a étendu ses bras décharnés vers le ciel. En vain, elle a fait sortir d'entre ses joues flétries une parole digne de son premier âge. Celui qui disait « Dieu n'est pas » était là. Il dardait son œil corrupteur. Et ces deux squelettes sont la proie des remords, comme ils furent celles des voluptés criminelles. Ils brûleront toujours. Qui de vous, chrétien, ne fut le fiancé d'une âme belle, pure, vierge et saintement candide? Qui de vous ne l'a vue, dans son printemps, brillante d'affections pures et généreuses? À quelle époque en êtes-vous de votre mariage avec elle? Frappez vos cœurs, et regardant à votre conscience, voyez jusqu'à quel point les saintes eaux d'une confession peuvent faire reprendre à votre épouse de gloire la blanche tunique qu'elle a portée jadis, et que les crimes et les passions, enfants de la chair, ont souillé. S'il était ici un coupable, personne, pas même moi, n'oserait lui jeter la première pierre. Vous avez tous, tous, à vous reprocher d'avoir jeté des taches sur votre robe, sur la toge céleste. Quis non peccavit. Ne semez donc plus la terreur. Arrêtez. C'est une voix divine qui vous en conjure. Regardez en arrière et feuilletez votre livre de vie. Toi, tu as interprété les lois en ta faveur, tu as gagné un injuste procès et ruiné une famille. Toi, tu as trahi ta patrie. Vous, vous l'avez vendue. Toi, ayant promis à ton épouse foi et honneur, tu l'as délaissée. Vous, arguant des fautes de votre mari, vous vous êtes justifié à vos propres yeux d'une vie de licence. Toi, un soir, furtif, quand ton oncle fut mort, tu tournas les yeux vers le bois, dépositaire de ses volontés. Et saisissant un testament que le vieillard crédule et séduit par tes semblants de franchise t'avait lu, tu l'as trouvé trop onéreux. Tu as approché une bougie et à l'instant il a été consumé. Avec la mémoire de l'homme juste, on périt les bienfaits qu'il devait répandre et dont l'espoir avait adouci sa mort. Ce sont peccadilles. Vous n'en passez pas moins dans le monde pour sage et honnête. Vous allez en voiture, on vous voit à la messe, vous n'avez fait banqueroute à personne, excepté à Dieu. Et, bah, Dieu est un créancier obligeant, il ne parle pas. Il parlera, mes frères, il parlera, la vengeance dans la main et la colère dans les yeux. Il parle déjà, car votre conscience gronde, j'en suis certain. Trouvez-vous ces traits trop tranchants? Mais ici, quelqu'un a insinué par des manœuvres adroites à un vieillard que ses neveux ne l'aimaient pas. Et après 10 ans, il a fait éclore un testament, perdant ainsi sa vie future pour quelques sous de rente pendant quelques instants d'une vie précaire. Mais ici, quelqu'un a refusé sa porte à des parents pauvres ou peu nobles, sous prétexte qu'ils étaient ennuyeux. Mais l'un de vous a été sollicité les juges, a envoyé vers eux sa femme parce qu'elle était jolie. C'est elle qui a débité les arguments qui devaient égarer la justice. On a donné des fêtes, et à force de soins et de démarches, vous avez étouffé une affaire fâcheuse. Toi, là-bas, si par un regard tu pouvais tuer, à la Nouvelle-Hollande, un homme sur le point de périr, et cela sans que la terre le sût, et que ce demi-crime, dis-tu dans ton cœur, te fit obtenir une fortune brillante, tu serais déjà dans ton hôtel, dans ton carrosse, tu dirais « mes chevaux, ma terre et mon crédit ». Tu n'hésiterais pas à répéter « un homme d'honneur comme moi ». Vous, plus loin, ayant une pièce fausse, vous l'avez noyée dans 20 bonnes et vous en avez infesté le commerce. Il y a ici un millier de crimes dont on ne se doute pas. et l'on marche toujours dans la vie sans se retourner. On marche. Où ? À la mort éternelle. Bah, pécadille, les anges ne tiennent pas registre de cela, ils n'ont pas le temps. Et puis, dites-vous, Dieu est si bon. Parlerai-je de ce qu'on appelle dans le monde des crimes ? Interrogerai-je celui qui marche tête levée et qui a empoisonné ses parents ? Car malheureusement, les lois de la terre n'atteignent pas tous les coupables, et par la finesse de certains qui sont découverts, on frémit de tout ce qui peut arriver. Dieu me garde de soupçonner qu'il y ait ici un tel coupable. Mais, quelque cruels que soient ces crimes, il se commet 1000 atrocités sociales dignes de ce nom. Je m'arrête, mon indignation est trop forte et je tremble. Adorons Dieu, mes frères. Recueillez-vous pour écouter la voix qui vous parle, car elle est d'accord avec cette voix intérieure qu'une main divine fait gronder dans vos cœurs. Croyez-vous échapper à Dieu après votre mort quand vous ne lui pouvez échapper de votre vivant? Sur la terre, vous êtes encore à vous. Eh bien, voyons si vous pouvez éviter ce Dieu que vous relègueriez au loin s'il vous était possible, et dont les temples vous fatiguent au milieu des villes. Coupable, cherchez un asile. En ce monde, vous pouvez encore marcher, aller dans de sombres cavernes, mais dans peu, m'entendez-vous, vous ne verrez que la lueur de son visage. Elle emplira les mondes et rien ne pourra vous cacher. Mais essayez seulement de ne pas reconnaître cette lumière dans cette vie. Tâchez de dérober à vos idées le lien qui les rattache toutes à l'idée première dont elles émanent. Secouez Dieu, je vous en défie. Mais essayons. Admirez un vaste effort de l'homme, une basilique immense. Elle n'est grande que parce qu'à votre insu, vous concevez mieux l'immensité par un de ses fragments, l'infini par un immense fini. Là, vous touchez Dieu comme un vaisseau touche dans l'océan un grand récif. Entrez dans une vaste forêt, au crépuscule, qu'elle soit épaisse et que ses arbres forment une colonnade végétale, et tâchez de ne pas trembler, car ce sentiment est le premier principe de la prière. Prenez garde. Vous vous prosternez alors devant toute la nature représentée par cette voûte de verdure. Là, vous touchez encore à Dieu. Enfin, marchez. Vous avez les fragments d'un mouvement imprimé. Par qui ? Par vous. Et qui ? À vous. Prenez garde à vos pas. Ils touchent à l'idée de Dieu. Prenez donc garde à tout. Car Dieu est dans l'eau que vous buvez, et dans le pain, et partout. Aimez, et vous aurez un peu le sentiment du ciel. Enfin, quoi que vous fassiez, Dieu, et toujours Dieu, vous accable. C'est une idée vivante, le sommaire des idées de l'homme. Et une main puissante, sans chercher des caractères, comme vous, l'a imprimé dans un livre éternel. La nature. Elle s'y lit pour qui n'est pas aveugle. Levez les yeux, et les cieux vous parleront plus haut que moi. Tremblez donc, et frémissez si vous avez quelque chose à vous reprocher. Ne fût-ce que d'avoir vendu à faux poids et mal mesuré. Ne fût-ce que d'avoir ri du malheur d'autrui. Ici, l'orateur chrétien fut interrompu. Un bruit inusité se perpétuait en un coin de l'église. C'était l'endroit où se trouvait Annette. Un homme, placé dans un angle, pleurait à chaudes larmes. Toute l'assemblée, émue et interdite, le regardait avec peine. Il s'efforçait de cacher son visage et ses pleurs. Cet homme était Argot. Les dernières paroles de M. de Montivert avaient éclairé son âme d'une lueur terrible, et le pirate, au souvenir de ses anciennes actions, n'espérait plus de pardon. Annette le reconnut. Cette douleur influa sur son âme, et cette douce vierge formait par sa pitié et Argot par son désespoir un tableau trop frappant pour que ceux qui entouraient ces deux êtres n'en fussent pas surpris. Argot était dans un état moral trop violent pour s'apercevoir de l'attention générale dont il était l'objet. Madame Gérard quitta sa place, fut à lui et lui dit « Cachez-vous dans le confessionnal !» Il y entra comme par instinct et l'assemblée ne fut plus distraite. « Or, mes frères, continua Monsieur de Montivert avec une énergie toujours croissante, avez-vous fortement réfléchi au peu de durée de notre existence et à l'éternité de notre seconde vie? Avez-vous jamais pensé qu'un peu de privation ici-bas, un peu de peine, vous obtiendrait une félicité éternelle? » Nous n'achèverons pas de donner l'éloquent discours de Monsieur de Montivert. Qu'il nous suffise de dire que de longtemps, les voûtes de cette église n'avaient résonné sous l'effort d'une voix plus pure et plus agréable au ciel, qu'après ce début terrible, on entendit la parole sainte redevenir onctueuse et compatissante, et qu'à la crainte, elle fit succéder l'espoir. Cette prédication produisit le plus grand effet sur l'assemblée. Mais rien n'était comparable à ce qu'elle enfanta dans l'âme du plus criminel des hommes, et à ce qu'elle fit par contre-coup sur le cœur d'Annette. Cette jeune fille n'était atteinte en rien par les menaces du prédicateur. Mais le changement subi de M. de Durantal rendit cette scène terrible pour elle. L'être qu'elle refusait pour époux à cause de son impiété acquérait à ses yeux une grandeur et un éclat magique par cette conversion subite. Une joie céleste s'éleva dans son âme en pensant que l'amour qu'il avait pour elle était la cause première de sa présence à cette heureuse prédication. Elle se voyait la source de son salut. « Il tiendra tout de moi, se disait-elle, les fleurs dans la vie, car j'en sèmerai partout sur ses pas, et les fleurs du ciel, car c'est moi qui, la première, aurais tressé sa couronne céleste en l'amenant ici. » Quand le prédicateur descendit, et pendant que la foule s'écoula, il fut arrêté, au moment où il passait, par Argot, en larmes et dans un état pitoyable. « Arrêtez, par grâce, disait-il. Oh, mon père, arrêtez, écoutez-moi, j'étouffe. » Monsieur de Montivert entra dans le confessionnal, Argot s'y précipita, et Annette et sa mère restèrent dans l'église. Annette pria avec plus de ferveur qu'elle l'avait jamais fait. Elle priait les anges intercesseurs et Dieu de pardonner au repentir. Jamais plus céleste voix d'âme ne parvint au ciel. Elle intercédait pour un amant, pour un époux, et son âme était remplie d'autant d'amour pour Dieu que pour sa créature. L'église retentissait de sanglots et de paroles entrecoupées. Les exclamations foudroyantes et le silence subi de M. de Montivert annonçaient les choses les plus graves. Au bout de 2 heures, qui ne parurent qu'une minute à Annette, M. de Montivert s'élança hors du tribunal avec les marques de la plus profonde horreur, en laissant M. de Durantal évanoui. « Secourez-le » dit-il. Et il disparut, épouvanté. Annette, rapide et légère, courut et releva Argot. En le relevant avec peine, elle aperçut que ses cheveux, au sommet de la tête seulement, avait blanchi tout à coup. Elle tressaillit. La jeune fille donna le bras à ce redoutable et terrible corsaire qu'une parole avait comme anéanti. Il s'appuya sur le bras d'Annette sans la voir, et comme s'il n'existait plus pour lui ni terre ni humain. Annette se garda bien, toute faible qu'elle était, de se plaindre du poids qu'elle portait. Elle en était fière. Monsieur de Durantal arriva en proie au plus violent tourment jusqu'à la porte de la maison d'Annette. Là, il la regarda, poussa un cri en la reconnaissant et s'enfuit avec rapidité comme s'il eût rencontré un objet terrible. Cette action plongea Annette dans le plus profond étonnement. Elle rentra et fut pendant 8 jours sans apercevoir l'ombre de Monsieur de Durantal. Alors ce fut elle qui se mit à la fenêtre pour savoir ce qui se passait dans la maison voisine. Nul mouvement, tout y semblait mort. Elle envoya son père demander des nouvelles de M. de Durantal. on répondit que monsieur n'était pas malade, mais qu'il était impossible de le voir. Cette réponse causa une vive inquiétude à Annette. Elle commençait à voir l'étendue de l'attachement qu'elle avait pour cet être extraordinaire, et elle frémit en s'apercevant de l'immensité du sentiment qu'elle contenait dans son âme, et qui, à son insu, était plus immense encore qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain, elle l'aperçut à l'église. Elle admira comme un beau spectacle, comme le plus beau qui pût s'offrir à des yeux humains, Argot en prière. Ce visage avait, pendant ses 8 jours de retraite profonde, contracté une expression de douleur, mais, en même temps, d'inspiration qu'aucune parole humaine ne saurait dépeindre. Les sublimes idées du grand peintre qui traça la figure de Saint Jean dans Patmos se trouvaient dans les traits de M. de Durantal. Mais il y apparaissait de plus une douleur éloquente et profonde qui saisissait l'âme. Annette regardait cette prière et cette absorption comme son ouvrage. Elle y applaudissait, et son âme se réunit à celle de son époux de gloire, avec une franchise, une exaltation, et par un élan impossibles à rendre. Qu'on se figure 2 chérubins prosternés devant le grand autel et combattant d'amour dans leurs hymnes sacrés, et l'on aura l'idée de ces 2 êtres dans l'enthousiasme de leur prière. Au sortir de l'église, Annette, sa mère et M. Gérard entourèrent M. Maxendy et lui demandèrent à le voir avec une telle obstination qu'il y aurait eu, de la part d'un chrétien, de la dureté. « Je vous le demande, dit Annette, par l'amour du prochain. » Il vint donc dans ce salon et retrouva tout dans le même état. Il jeta un profond soupir en s'asseyant et il regarda Annette avec une tristesse qui la gagna. Ce regard était celui d'un banni, qui, ne devant jamais rentrer dans sa patrie, avant de quitter le dernier village, jette un coup d'œil, l'adieu du cœur à tout ce qui fut cher. La jeune fille eut l'âme serrée, et, venant à côté de lui, elle lui demanda de sa douce voix « Pourquoi ai-je été si longtemps sans vous voir ?» Il y avait, dans cette interrogation, toute la finesse, toute l'innocente coquetterie qu'une vierge, pure comme Annette, pouvait y mettre sans sortir des bornes de la décente tendresse. Il y avait de la bonté même. Argot n'y répondit d'abord que par un regard terrible, et il ajouta « Nous sommes séparés à jamais ». Quel sens affreux la profondeur du jeu muet de sa figure et les sons de sa voix ajoutèrent à ces paroles. Annette frissonna et lui dit « Vous me faites mal ». Il tressaillit à son tour, la regarda et vit briller tant d'amour sur sa figure que son expression de douleur disparut pour un moment. Mais se levant bientôt, il s'en alla en disant « Je l'aime assez pour la fuir ». Et il disparut. Ces mystérieuses paroles étonnèrent Monsieur et Madame Gérard. Jean, qui avait bien, si l'on veut, de ce qu'on nomme du bon sens, mais qui n'en était pas assez pourvu pour deviner de semblables énigmes. Annette avait recueilli ces paroles, et elles germèrent dans son âme. Il était clair qu'il existait un grand obstacle, et ce qu'Annette trouvait d'aussi certain, c'est qu'il ne venait plus d'elle. Étrange contradiction de l'esprit de la femme. Tant que Mademoiselle Gérard avait été recherchée, et en quelque sorte poursuivie par Argot, elle s'était défendue de cet amour avec un soin qui pouvait passer pour de la répugnance. Et maintenant que ce dernier semblait vouloir la fuir, l'amour dans l'âme d'Annette croissait avec une force étonnante. Annette s'en remit là-dessus, comme elle faisait pour tout, à la divine providence de celui qui entend la voix d'un insecte et les accents des sphères célestes. Chapitre 13. Cependant, l'éloignement que M. de Durantal manifestait pour Annette devint si frappant de jour en jour qu'il résolut d'en savoir la cause, et de même que naguère Argot avait sollicité une explication d'Annette, afin qu'il y eût une parité complète, Annette voulut apprendre de Monsieur de Durental quel motif l'éloignait d'elle. Son amour-propre de femme lui semblait compromis, et à la fin, elle s'inquiéta véritablement. Un soir, elle sortit de l'église en même temps que Max Handy. Elle marcha à ses côtés et ressentit une vraie douleur en voyant qu'il ne faisait aucune attention à elle. Néanmoins, elle continua et l'accompagna en silence jusqu'à la porte de son hôtel. Arrivée là, elle frappa, et lorsqu'on eut ouvert, elle poussa la porte, se rangeant avec respect pour laisser entrer Argot. Ce dernier s'avança sans regarder Annette, et ils arrivèrent ainsi jusqu'au milieu des appartements. Là, M. Max Handy, se tournant vers elle, lui dit « Jeune fille, j'ai fait tous mes efforts pour mettre un monde tout entier entre nous deux. Pourquoi veux-tu le franchir ? Tremble, car tu fais battre toujours mon cœur du plus tendre amour qui fut jamais. Cet amour est notre perte. Va, retire-toi. » « Je ne me retirerai pas, dit Annette. Votre repentir vous a lié à moi, et je veux savoir quel monde est entre nous. Je n'ai pas ainsi déposé toutes les convenances en vous suivant jusqu'ici pour ne pas vous entendre. Et tu veux donc que l'orage te brise? Oh, dites-moi, m'aimez-vous assez pour tout oublier pour moi? Pour quitter parents, amis, patrie? » Annette se tut. « Savez-vous, continua Argot, que notre amour ne sera pas cette passion gaie et folâtre dont je rêvais naguère les délices. Ce sera un amour profond, il est vrai, grand et sublime. Il aura ses pieds sur la terre, mais sa tête sera dans les cieux, et nous pleurerons souvent. Unir sa destinée à la mienne, Annette, c'est unir la plante délicate et pure qui porte le parfum le plus céleste avec celle qui ne verse que des poisons. Unie à moi, Annette, vous vous souilleriez comme l'âme dont a parlé M. de Montivert. Je ne suis plus digne de vous, et la vérité, en se montrant à moi, a emporté tout mon bonheur. Ah, quelle est la femme qui, vertueuse et touchante, voudra s'allier à moi pour rester perpétuellement au sein de la douleur, sans connaître ni la paix ni le repos. Elle serait sans asile, sans foyer, repoussée partout à cause d'un époux qui porte sur le front une marque éternelle de réprobation. Comme la femme de Caïn, elle me suivrait dans les larmes et dans un perpétuel enfantement de rage et de malheur. Elle verrait toujours le ciel d'airain, la terre deviendrait aride sous ses pas. Et ceci n'est rien ? Non, dit Annette en l'arrêtant. Ceci n'est rien, car ceci n'arrêterait pas Annette. Cette phrase, dite avec calme et résignation, fit une impression si grande sur Argot qu'il regarda Annette et tressaillit à l'aspect de l'amour qui éclatait sur son visage. « Eh bien, reprit-il avec une énergie terrible, écoutez la suite, et voyez si votre courage y tiendra. Je ne vous ai dépeint que notre destinée terrestre, mais songez que, tout en vous apportant en dot une couche nuptiale trempée de sueur, vous aurez un cœur qui tremblera à chaque regard que vous jetterez sur moi. Dans la nuit, vous serez effrayé d'un terrible sommeil qui sera troublé par tout ce que les remords ont de plus affreux. Je vous montrerai les ombres sanglantes que je vois et qui m'étouffent. Votre âme recevra des confidences qui rendront chaque nuit une nuit de crime, et vos mains délicates ne seront occupées qu'à tarir la sueur froide de mon front. Voilà mes nuits. Voulez-vous de mes jours ? Sans cesse je prie, sans cesse je pleure. Je n'ose regarder le ciel. La nature entière m'accuse, et la prière, les privations, ne me paraissent jamais assez sévères. Oh, ce n'est rien encore. Avec cet enfer ici-bas, je vous apporte aussi l'enfer véritable. Votre époux ira avec les millions de damnés pousser des cris de rage, voguera sur les feux éternels, et rien, rien ne pourra me racheter pour l'Éden céleste. Voulez-vous m'aimer maintenant ? Oui, dit Annette. Je ne le veux pas, reprit-elle, car ce n'est pas l'effet d'une volonté. Il faut que je vive, et pour vivre, il faut que je sois à vos côtés. J'en aperçois maintenant une plus grande obligation. Coupable, il faut que je vous embellisse cette vie. Et que lui restera-t-il donc à celui qui a forfait, si, perdant la vie future, on ne lui rend pas moins amère cette vie terrestre? Partout où vous serez, je trouverai cet asile paré de douceur, si vous m'aimez. Non, vous ne parcourrez pas toute cette vie avec moi sans rapporter au ciel un gage de repentir. Jamais la colombe n'a parcouru la mer sans trouver une branche de myrte pour décorer son nid, et nous chercherons ensemble à calmer le Tout-Puissant. Si la terre vous refuse du feuillage parce que vous l'avez trahi, je suis innocente, je lui en demanderai. Elle m'en donnera et je vous l'apporterai. Si l'on vous dénie un asile, je me présenterai la première. Je séduirai les cœurs parce que c'est pour vous que je prierai. Et je cacherai la marque de votre front sous les boucles de mes cheveux. Car je vous introduirai en vous couvrant de mon corps. Jamais je ne verrai le ciel injuste. La terre ne sera pas stérile. Je n'aurai point de douleur, encore moins de la rage, parce que je serai à vos côtés, mon cher époux. Et la paix, le repos, l'innocence viendront à vous, parce que je serai à vos côtés. Vous ai-je dit assez que je vous aimais? Maintenant, voulez-vous en savoir davantage? Comme je vous aime maintenant, je vous aimerai toujours. Ce n'est point à cause de votre rang. La beauté, le langage, la tendresse, rien de cela ne me séduit. Je vous aime parce que vous êtes le seul être que la nature m'ait donné pour compagnon. Je le sens. Les sentiments que je viens d'exprimer ne me nuiront même pas, parce que, depuis que nous nous sommes vus, vous êtes devenu pur et céleste, et je parle à mon compagnon dans le ciel comme sur la terre. Pendant ce discours, il régnait dans l'attitude, les manières et sur le visage d'Annette une majesté radieuse, un air de grandeur et d'innocence qui réalisait en elle tout ce que l'on songe d'un être descendant d'un monde meilleur pour expliquer aux hommes les ordres du Dieu vivant. Il y avait de plus cette conscience de vertu qui repousse toute interprétation basse, des paroles surhumaines qui venaient de sortir de ses lèvres enflammées. Argot la contemplait avec une horrible fixité. Un tel dévouement lui donnait, de l'espèce humaine, une idée bien opposée à celle qu'il en avait prise lorsqu'il coulait à fond un bâtiment chargé de passagers et qu'il riait en voyant leurs mains tendues hors de l'eau avant de s'enfoncer à toujours. « Ah ! » s'écria-t-il. Je ne dois point prétendre à me voir guidé dans la vie par un ange de lumière et d'amour tel que toi. Je te profanerai par mon souffle. Tes lèvres ne sont faites que pour les baisers des anges. Tes mains sont trop pures pour s'allier en priant avec des mains telles que les miennes. Elles ont donné la mort. Ah ! Ce cri d'Annette était si perçant qu'il annonçait une révolution. En effet, elle s'évanouissait lentement comme une lampe qui meurt. L'effroyable douleur qui saisit Argot à l'aspect de cette touchante jeune fille, pâle et presque morte, était la première qu'il ressentait comme douleur d'âme. Qu'on songe à la force d'une première douleur. Annette revint à elle, et les couleurs naquirent sur son teint comme l'aurore quand elle commence à poindre. Elle rouvrit les yeux, aperçut Argot, et voyant la terreur peinte sur son front, elle lui dit d'une voix renaissante « La mort leur devait être justement donnée, puisque c'est toi. Ah, ma tâche ne sera que plus belle si elle est plus pénible. » Et revenant à elle tout à fait, elle ajouta « Nous marcherons ensemble désormais, dans une voie de justice et d'humilité. Je prierai, et pour vous, et pour moi. » « Non ! » s'écria Argot. « C'est aimer que d'avoir le courage de te fuir, car ce n'est pas tout, être cher et céleste. Tout ce que je t'ai dit déjà, peu mesuré à tes forces, n'est rien. Je me tairai cependant, parce que l'horreur d'un tel avenir ne doit pas être présentée à des vierges. Adieu. « Ah ! » dit-elle en le regardant avec une profonde terreur. « qu'y a-t-il de plus effrayant dans le monde que ce que vous venez de dire ?
Annette, la malédiction des hommes est plus terrible que celle de la divinité. L'on peut espérer pour l'une, et l'autre est sans pitié.
Ne peut-on fuir les hommes ? Dit Annette.
Et quoi ? Vous me suivriez au désert ? Loin ? Bien loin ? Vous...
Celle qui s'attache à l'être dont la main a donné la mort peut, je crois, le suivre partout.
N'y seriez-vous pas au désert ? Que m'importe le reste ?
Annette, épouvantée d'en avoir tant dit, baissa les yeux. Des pleurs s'échappèrent avec violence d'entre ses paupières, et elle s'enfuit, sans oser jeter un dernier regard sur Monsieur de Durental. Telle affreuse que fût une pareille scène pour Annette, elle n'en resta pas moins constante dans le sentiment qu'elle avait avoué à Max Andy. Bien plus, cette immense obligation qui lui était imposée l'enhardit à l'aimer. Elle vit de l'héroïsme, là où d'autres ne verraient peut-être que du malheur et un sujet d'éloignement. En peu de temps, son amour grandit et devint tout ce qu'il devait être, sublime et unique sur la terre. Le caractère d'Annette excluait tout changement, alors qu'elle avait décidé de parcourir telle ou telle route. Et dès qu'elle eut prononcé à Argot l'assurance d'un éternel attachement, rien dans le monde ne pouvait plus la faire dévier de son chemin d'amour. Il y avait 2 jours qu'elle ne l'avait revue depuis cette épouvantable confidence. Un soir, Annette travaillait chez elle à la douce lueur d'une lampe, la porte fit un léger bruit. Elle se retourna et elle le vit à ses côtés. « Annette, » dit-il en adoucissant les sons d'une voix qui fut toujours mâle et forte, « je puis bien prier sans toi, demander pardon de mes fautes à Dieu. Mais élancer mon âme dans les cieux, ah, je sens qu'il me faut la tienne pour ce pèlerinage. Ah, je viens, mon ange tutélaire, passer 1 heure auprès de toi. » Sentir la paix et l'innocence confondre mon âme dans la tienne et monter dans le ciel à la faveur de ta précieuse vertu céleste.
Annette le regarda, car à ce tendre discours, elle ne reconnaissait plus l'homme d'autrefois. Il y avait une onction, une douceur nouvellement éclose dans ce cœur qui, la veille encore, était dur et terrible même en son amour.
Qui ne vous aimerait pas ? Dit-elle. Venez. Elle lui montra un fauteuil près de son piano et elle se prépara à jouer. Et comment ? Dit-elle en souriant comme doivent sourire les anges. Et comment avez-vous fait pour entrer dans cette chambre où nul homme ne pouvait venir ? Dites, répondez. On vous aime et voilà tout.
Ici, dans cette réponse, pour la première fois, Annette déployait cette amabilité de caractère, cette finesse qui la rendait la plus jolie des femmes. En parlant, son visage, ses gestes, brillaient d'un charme gracieux indéfinissable. Il faut se souvenir d'une femme que par hasard l'on rencontre, dont chaque mouvement est une grâce, et se dire « c'était ainsi ». Annette joua comme devait jouer Annette. Elle pouvait n'être pas d'une grande force, mais malheur à celui qui n'aurait pas tressailli en l'entendant. Car s'il avait un cœur, il serait de pierre. L'extase qui s'emparait d'elle, en priant, passait dans son jeu, et rien n'était indifférent sous ses doigts. La note la plus insignifiante avait un caractère de douceur et un charme indescriptible. Un poète a célébré l'accord de la musique, de l'amour et de la religion. En chantant cet accord, il chantait d'avance, et sans la connaître, Annette, la plus jolie de cette terre. Quand elle eut fini, elle contempla Monsieur de Durental, qui était comme enseveli dans une méditation. Il écoutait les derniers sons comme s'ils duraient encore. « Eh bien, » dit-elle, « quand on pouvait avoir ce simple et pur plaisir d'entendre de la musique et ce qu'on aime, comment allait-on en mer courir des dangers ? Que cherchiez-vous ? Le bonheur ? Eh, monsieur, vous étendiez trop le bras. Il est plus près de nous qu'on ne le croit. M'écoutez-vous ? rendre ce regard, cette attitude, qui le pourrait? Annette vint se mettre à côté de Monsieur de Durental, et, lui donnant un léger coup sur la main par laquelle il tenait sa tête, elle la dégagea pour pouvoir le contempler en face, et lui dit « Voulez-vous bien me sourire quand je vous parle ?» Il sourit en effet, pour la première fois de sa vie, avec cet abandon, cette naïveté, cette franchise qui ne se trouve réunie que dans le premier âge, alors que l'on aime pour la première fois. Mais dans ce sourire, il y avait un regret, et ce regret le rendait mille fois plus touchant. Cette scène charmante, au milieu d'une chambre qui semblait habitée par l'amour et tout ce que les sentiments humains ont de plus délicat, l'ordre, la sagesse, la recherche et l'amitié modeste et pure, cette scène, disons-nous, était comme le prélude des mille autres scènes d'amour et d'innocence dont les jours d'Argot et d'Annette devaient s'embellir. C'était comme l'aurore d'une belle journée. Et lorsqu'Annette exprima cette idée, Maxendy répliqua « Pourvu qu'il n'y ait pas d'orage le soir. »« Qu'importe l'orage, » dit-elle, « s'il y a une nuit profonde et silencieuse. » « Annette, » reprit M. Maxendy, « vous souvenez-vous qu'ici, un soir, vous m'avez dit « séparons-nous ?» Ici, donc, le soir aussi, moi, je vous dirai « séparons-nous. » Oui, Annette, car tel bonheur que votre chaste union me présente, l'idée que je suis un homme indigne du pardon céleste s'offrira sans cesse à ma pensée. Une affreuse mélancolie sera toujours dans mon cœur, et vous ne trouverez rien en moi de ce qui doit charmer l'existence d'une fille aussi pure et aussi céleste que vous l'êtes. Mon cher monsieur de Durental, est-ce que vous espérez vous faire répéter tout ce que je vous ai dit naguère? Oh non, je ne puis le redire, car si j'avais su où devait m'emporter l'aspect de votre douleur, croyez qu'Annette se serait tue. Je ferai à votre bonheur tous les sacrifices que peut faire une femme, mais je ne ferai jamais celui de ma pudeur, car alors je ne serai plus femme. Ayez donc de la grandeur, monsieur. Ne vous inquiétez plus du destin d'Annette. Soyez un beau monument de repentir, et comme un monument, laissez croître sur vous le lierre des murailles. Il est trop heureux de partager un instant l'attention des admirateurs. » Argot, attendri par ces douces paroles, la regarda longtemps, et sans doute ses yeux avaient hérité de toute l'énergie de son âme, car Annette s'écria « Ce regard est la vie, laissez-moi le recueillir. Oh, celui dont l'œil a tant d'amour et de bonté n'est point un criminel. » Ou s'il est criminel, dit Argot, c'est celui qui aimera le plus sur la terre. Et qui sera le plus aimé, répliqua Annette, car ne m'avez-vous pas fait ouvrir mon piano, moi qui ne voulais plus exprimer l'amour ni par la musique, ni par le chant, ni... Oh, de tels regards font franchir bien des barrières. Argot quitta Annette. Il était comme enivré. Après une scène pareille, il ressentait en son cœur une tranquillité, une paix, que ses remords troublaient toujours trop tôt, et alors Annette devenait pour lui un véritable besoin. Chapitre 14. Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi au sein du bonheur le plus pur. Les scènes de cette vie d'amour et de joie offrent au pinceau des couleurs que bien des gens trouvent monotones, et de telles descriptions feraient reléguer cet ouvrage avec les romans de Scudéry et de Lastrée. Alors nous nous contenterons de montrer Annette et Argot cheminant dans le même sentier. Aux yeux des anges, la pure Annette guidait vers le ciel un être malheureux, néophyte de vertu, qui, à chaque pas, regardait sa douce compagne en se demandant quel droit il avait à cette heureuse alliance. Et chaque pas encore, il lui disait « Suis-je bien sur la route ?» S'essayant ainsi dans la carrière des justes, appuyés l'un sur l'autre, ce devait être pour le ciel un des plus touchants spectacles. L'union d'Annette et de M. de Durental n'était cependant pas encore décidée. car Madame Gérard, sur les avis de Monsieur de Montivert, s'opposa pour un temps à leur mariage. En effet, ce saint homme, effrayé de la confession d'Argot, mais témoin aussi de son grand repentir, voulait s'assurer de la sincérité de celui auquel Annette allait confier le soin de son bonheur. Il avait même insinué à Madame Gérard que sa fille pouvait risquer beaucoup pour l'avenir. Les craintes de la mère disparaissaient cependant devant l'amour d'Annette et les témoignages de la tendresse de Monsieur de Durental. Alors, Madame Gérard ayant confié à Monsieur de Montivert qu'Annette ait été prise au dernier degré d'argot, et le bon prêtre ayant répondu « S'il s'aime autant, unissez-les », elle n'opposa plus de résistance au bonheur d'Annette. Un jour, Argot réussit, après bien des difficultés, à décider Annette, sa mère et M. Gérard à venir entendre un concert spirituel. C'était aux Italiens, et pour la première fois, depuis 3 ans, Annette franchissait le seuil d'une salle de spectacle. Elle eut un mouvement de stupéfaction en se voyant au milieu d'une si grande foule, car il y avait beaucoup de monde, et Argot, ne pouvant entrer dans la même loge qu'Annette, se contenta de se promener dans le corridor. À chaque morceau de chant, M. Maxendi accourait se placer derrière Annette, en passant la tête par l'ouverture ronde qui se trouve à chaque porte des loges. Là, il voyait une foule de personnes écouter la musique, en arrêtant leur regard sur Annette, dont la mise simple, si bien en rapport avec le genre de sa beauté, attirait l'admiration. Cette unanimité lui causa un plaisir d'amour-propre, dont la vivacité commença à émouvoir son cœur et à le disposer à cet attendrissement qui saisit l'être tout entier. « Êtes-vous contente ? » demanda-t-il à Annette. « Non, » répondit-elle. « Et pourquoi ? » Parce que cette foule s'interpose entre nous, et qu'une heure passée en silence, mais passée à côté de vous, vaut tous les concerts du monde. Rien en fait de musique, rien n'est beau que la voix de ceux qu'on aime. « Ne parlez pas ainsi, vous allez me faire mourir, » répliqua Argot. « Il ne faut donc pas vous dire que ma mère consent à notre mariage, et que bientôt... » Annette s'arrêta. Monsieur de Durental était pâle, et ses yeux annonçaient que la simple annonce de ce bonheur était au-dessus de ses forces. « Annette, ma chère Annette, » dit-il à voix basse, « épargnez-moi, je vous supplie. » Annette pleura en voyant des pleurs rouler sur le visage d'Argot. « Auriez-vous envie de rester ici avec cette idée ? » demanda-t-elle à Monsieur de Durental, qu'elle voyait inattentif au plus doux chant que le gosier d'une femme ait jamais modulé. Car Madame M. chantait. « Oh non, » dit-il, « partons, partons. » Ils laissèrent Monsieur et Madame Gérard seuls et s'en retournèrent à pied dans le marais, savourant la douceur de traverser Paris, en proie à une confusion et à un bruit dont leur cœur offrait le plus grand contraste. Le lendemain au matin, Argot était agenouillé dans son oratoire et priait avec une ferveur sans exemple. Quand tout à coup, il fut interrompu par des éclats de rire immodérés. Il se retourna avec une extrême douceur, et, comme alors il montra sa tête, le rieur rit encore plus fort. Argot reconnut Vernier. Maxendi attendit patiemment la fin de ce rire, et cette contenance de résignation, cette patience, si peu en rapport avec le caractère du pirate, fut ce qui arrêta Vernier. « Que diable fais-tu là ? » dit-il. « Et comme ta figure est changée ! » « Qu'a-t-elle d'extraordinaire ? » demanda Maxendi. « Quand on aurait mis, » répondit Vernier, « un cataplasme de nénuphars et de concombres sur le crâne pendant 15 à 20 jours pour t'ôter toute physionomie, toute idée, toute force, on n'aurait pas si bien réussi que toi avec ton air tranquille. Quelle lubie as-tu ? » Vernier, reprit Argot. « Je pleure mes erreurs, nos crimes, et j'en espère le pardon. « Per secula seculorum, amen, » répondit le lieutenant. « Par le ventre d'un canon de 24, es-tu fou ? Oh, mon pauvre capitaine, je vais faire dire des prières afin que le ciel te restitue ta raison.
Vernier, dit Argot, je prie le ciel qu'il te fasse voir le même jour que moi, et que tu te convertisses pour sauver ton âme.
Ventre bleu, je veux que le diable m'emporte si jamais je change.
Quoi, ce serait vrai? Le capitaine de la Daphnie, après s'être trompé en coulant à fond plus de 2000 pauvres diables, croirait que, s'il y a un paradis, on peut effacer ces petites erreurs de calcul social en disant des orémus, allant à l'église et fricassant des œillades au ciel. 1000 millions de diables, si tu es sauvé, je rirai bien.
Cette idée fit encore une telle impression sur Vernier qu'il se mit encore à rire.
Argot fut à lui, et lui prenant le bras avec douceur, il lui dit « Vernier, je suis ton ami, et cette considération devrait t'engager à respecter mes opinions, quelles que soient les tiennes. »
« Oh !» lui répondit Vernier, « reste comme cela, tu es vraiment à peindre.
Feu le père Abraham n'avait pas l'air plus pathétique.
D'honneur, tu es touchant.
Oh ! Qu'un homme comme toi est bien mieux avec un chapelet et un scapulaire qu'avec un bon pistolet et une hache de l'autre. »
Argot, une fois que ce que j'appelle un homme a mis le pied dans un chemin en commençant sa vie, il doit, quand le ciel tomberait par pièces sur sa tête, le continuer courageusement. Nom d'un diable! Si je puis, je mourrai entouré de soldats morts dans quelque combat, où j'aurai brûlé plus d'une cartouche, brisé plus d'un crâne et fendu plus d'un ventre. Mon âme, si tant est qu'il y en ait dans mon pauvre corps, s'exhalera au sein de la destruction et du carnage. Et si le cri de victoire retentit à mon oreille, je serai joyeux comme un équipage à qui l'on crie « Terre ! Terre !» après un voyage de 2 ans.
Comment ? Cela ne te remue pas ?
Ah, mon pauvre capitaine, il n'y a plus d'espoir. La tête n'y est plus. Quelque chien t'aura mordu.
Vernier, répondit Argot avec calme, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour t'ouvrir les yeux sur ta conduite et t'engager à suivre mon exemple. Si je n'y parviens pas, et que mes discours te soient à charge, je ferai violence à mon amitié en me taisant. Mais alors, je ne t'importunerai plus. J'espère alors que tu imiteras ce silence à mon égard. Cependant, plus tu me représenteras l'infamie de mon ancienne existence, et plus je t'aurai d'obligations. Car tu redoubleras en moi la force et l'énergie pour demeurer dans le chemin de la pénitence. Des âmes ordinaires s'effraieraient de t'approcher. Moi, ton ancien ami, je veux l'être toujours, et la différence de nos opinions religieuses ne m'effraie point. Laisse-moi prier, et dans quelques moments nous allons nous revoir.
Mais dis-moi au moins qui a pu te changer ainsi.
Annette, le ciel et le vertueux prédicateur que j'ai entendu.
Annette, reprit Vernier, ah, si cette jeune fille a eu le pouvoir d'opérer de si grands changements, mon éloignement approche, et il faudra nous dire adieu.
« Jamais, dit Argot, tu seras mon ami et l'admireras.
Ma pipe, mon allure, mes manières l'effraieront.
Non, parce que tu es mon ami.
Voilà de tes équipés, dit Vernier.
Et regardant l'ameublement de l'oratoire et donnant un coup de pied au prie-dieu, il s'en alla en s'écriant « Qui l'eût jamais dit ?» Il haussa les épaules, chargea sa pipe et se croisant les bras, il s'alla promener dans le jardin de l'hôtel. Ce jour-là, M. Maxendy introduisit Vernier chez Mme Gérard, et le général, à l'aspect d'Annette, devint aussi respectueux qu'il l'était jadis devant son capitaine. Malgré la tenue sévère de Vernier, il déplut à Mlle Gérard, qui démêla dans les manières brusques du lieutenant et dans sa physionomie quelque chose de grossier et de rude. Aussi, quelques jours après, Annette demanda à M. de Durental ce qu'était ce nouveau personnage.
« C'est mon ami, » dit-il.
« Il est bien libre dans ses manières, » répondit-elle.
« C'est, » répliqua Argot, « un marin,
et ils ont toujours quelque chose de sauvage.
Soit, mais il n'est pas religieux.
C'est vrai, Annette, mais c'est mon ami.
Il me glace le sang par sa présence, continua-t-elle, et j'ai quelque pressentiment que le bras de cet homme me sera funeste. Et cependant ce sentiment m'étonne, car je me sens en général de la bienveillance pour tous les êtres. J'ai du plaisir à vous regarder, mais lui, je frissonne en l'apercevant.
Annette, dit Argot, je vous aime autant que l'on peut aimer au monde. Mais je crois que vous m'aimez, et en vous répétant encore « c'est mon ami », vous respecterez cette amitié.
« Oui, puisque c'est votre désir, » répondit-elle. Un soir, Argot et Vernier étaient réunis dans la chambre d'Annette. Et cette charmante fille s'était abandonnée à tout son amour. Chaque mot qu'elle avait prononcé avait été un mot brillant de candeur et de tendresse. Elle avait touché du piano, et les accords de sa musique avaient plongé les deux amis dans une rêverie qui se prolongeait encore longtemps après qu'Annette eut fini. Tout à coup, Vernier se leva, fut à elle, et dans un enthousiasme difficile à décrire, il lui dit en lui serrant la main.
« Vous êtes un ange. Mais en devenant l'épouse de monsieur de Durantal, vous ne savez pas tous les dangers que vous courez.
Moi, je me charge de vous en garantir. Je serai toujours un démon, mais ce démon veillera sans cesse à votre bonheur. Je devine bien que vous devez ne pas m'aimer, mais si je n'ai pas votre amitié, je vous forcerai à avoir de la reconnaissance, et vous serez tout étonné un beau matin de mêler mon nom à vos prières. »
Annette dégagea son bras d'entre les mains de Vernier avec une espèce de dépit qui enchanta Argot, et elle ne répondit rien à ce discours. Cependant, l'époque du mariage d'Annette avec monsieur de Durantal approchait, et, toute joyeuse qu'Annette pût être de cette union, l'approche de ce moment faisait naître bien des réflexions dans son cœur. Par instants, elle ressentait comme une terreur sourde, que le souvenir des aveux de son époux excitait. Une nuit, elle eut encore le même rêve qu'il avait tant effrayé à Durantal. Et le lendemain, lorsqu'Argot entra, elle l'examina avec un soin curieux et lui trouva une figure plus sombre qu'à l'ordinaire. Tout en le regardant, elle visitait de l'œil son cou et tâchait d'ôter de sa mémoire l'image de cette ligne rouge qui l'épouvantait si fort. Et plus elle imitait d'intention, plus cette ligne brillait à ses regards par-dessus les vêtements même.
« Monsieur de Durantal, venez donc ici, » lui dit-elle, en lui montrant un tabouret sur lequel elle posait ordinairement les pieds. Argot y vint et s'y assit de manière que sa tête se trouva comme dans les mains d'Annette. Elle s'en empara avec une espèce d'avidité et lui dit
« Eh, mais « vraiment, vous avez une tête bien grosse !» Et, passant à plusieurs reprises ses doigts dans les cheveux du pirate, elle cherchait à déranger la cravate qui lui cachait le cou. La superstition dont elle était possédée lui faisait battre le cœur, comme si elle allait commettre une faute, et ses regards, incertains et comme confus, se baissaient sur le cou et l'abandonnaient tour à tour. « Pourvu, » dit Vernier à l'aspect de ce tableau, qu'il n'y ait que ta fiancée qui joue toujours comme cela avec ta tête. Elle la remue comme si elle ne tenait pas. » Ces mots firent pâlir Argot. Il se leva brusquement, et ce mouvement permit à Annette de s'assurer qu'aucune ligne rouge n'existait sur le cou de monsieur de Durantal. Ce dernier alla droit à Vernier et lui dit « Mon ami, de grâce, pas d'idée pareille. »
« Est-ce que tu en serais venu à craindre la mort ?» lui dit le lieutenant à voix basse.
Ici, Argot jeta un regard à Vernier qui lui imposa silence, tant il signifiait de choses, et il ajouta « Je ne la crains pas pour moi. » Cette scène brusque ne satisfit pas Annette, qui crut y entrevoir un mystère qu'on lui cachait. Et, malgré l'assurance que lui donna Argot sur ces questions multipliées, qu'elle ne contenait aucune chose qui pût l'alarmer, Annette n'en conserva pas moins des soupçons qui ne se dissipèrent qu'à la longue. Chaque jour, elle était comblée des présents magnifiques d'Argo, et ces présents, par leur nature, lui disaient que le jour de son mariage approchait de plus en plus. Ce fut à cette époque que M. Gérard reçut une lettre de Charles Servigné. Il lui mandait qu'il avait l'espoir de monter à un poste encore plus élevé que celui qu'il occupait, et qu'il saisissait cette occasion pour lui renouveler ses instances au sujet de son mariage avec Annette. Il lui apprenait que sa sœur et sa mère avaient abandonné le commerce de détail, et que, grâce à son influence, elles avaient réussi à fonder une maison de commerce qui prospérait et promettait les plus grands avantages. M. Gérard répondit à cette lettre par l'annonce du mariage d'Annette avec M. le marquis de Durental, et il finit en prévenant son neveu que les réjouissances de cette heureuse union se feraient au château de Durental, et il priait Charles d'engager toute la famille Servigné à s'y trouver. Lorsque Charles lut cette lettre en famille, un grand étonnement succéda à cette lecture. Adélaïde Bouvier sentit une rage se glisser dans son cœur en apprenant qu'Annette devenait une dame de si haut rang et si riche. Puis son dépit s'exhala par ces paroles « On nous apprendra bientôt un baptême !» Charles dissimula toute sa haine et garda le silence. Le soir, il était invité à un bal qui devait avoir lieu à la préfecture, et il répandit cette nouvelle dans toute l'assemblée, mais en tirant grande gloire pour lui de cette alliance. Le préfet, en l'apprenant, le complimenta avec une sincérité qui étonna Charles, surtout quand le préfet lui dit qu'il était l'ami intime de M. de Durental. Charles s'applaudit alors de n'avoir parlé d'Annette et de son époux que dans un sens qui leur fut favorable, et il recommanda à sa sœur et à sa mère de n'en jamais parler qu'avec la plus grande amitié et la plus grande déférence. Aussi, Annette et Madame Gérard furent très surprises en recevant de Valence une lettre pleine de tendresse et de compliments sur cette heureuse union. On regrettait même de ne pouvoir assister à la célébration de ce mariage, mais l'on attendait avec impatience l'arrivée des époux et la fête de Durental. Annette, son père et sa mère crurent aux sentiments exprimés dans cette lettre et se réjouirent de ce que la nouvelle du mariage d'Annette n'avait pas été mal reçue par la famille Servigné. Alors on pressa les préparatifs du mariage et du départ, et l'on fut bientôt à la veille de cette union tant désirée.